Bienvenue à cette rencontre avec Luca Greco. Nous allons donc parler de son livre dans le cadre de ces rencontres qui sont portées par donc le thème, je crois, c'est les livres en dialogue, c'est ça, et c'est chaque dernier jeudi du mois. Livre en dialogue, ce n'est pas l'Institut catholique, non, c'est la Maison des sciences de l'homme, c'est ça. Alors, nous allons organiser un grand tour de parole peut-être et d'observation, tel que les aime Luca Greco. Si l'on te demande, Luca Greco, qu'est-ce qui a participé à ton amour de l'observation et de l'analyse, cette pente qui t'a peut-être amené à devenir sociolinguiste? Tu évoques ta grand-mère qui s'adressait à toi et aux autres dans un mélange de calabrais et d'américain. Et dans ce livre, d'ailleurs, vous découvrirez ou relirez ou retrouverez en tout cas un certain nombre d'auteurs américaines, bien sûr, mais aussi italiennes, ce qui est un grand, grand plaisir, féministe. Et peut-être que l'élément inaugural de la prise de conscience, peut-être de la diversité des codes, des interpellations, c'est donc venu dès la prime enfance.
Oui, tout à fait. Je pense que ma grand-mère paternelle a joué un rôle fondamental puisque dès qu'on avait 4-5 ans, elle nous parlait dans un mélange d'américains, de calabrais et d'italiens. Donc, j'étais tout de suite, depuis l'enfance, justement, sensible à la diversité des codes linguistiques et aussi à leur mélange, parce qu'elle fabriquait des phrases hybrides où le calabrais s'est mélangé avec l'américain et aussi avec l'italien. C'était aussi une femme seule. Donc, c'était aussi une femme qui, à l'époque, sa solitude, en tout cas, était appréhendée comme une sorte de diversité dans les codes ambiants de l'époque dans l'Italie. Et donc, si tu veux, cette figure, le mélange entre la diversité des codes linguistiques et aussi une figure de femme, pas tout à fait dans les normes, a fait en sorte que je m'intéresse aux façons dont le langage nous construit en tant que sujet et à la façon dont on peut nous construire en tant que sujet différent, divers, maîtrisant des codes de variés, plurilingues, voire hybrides. Donc là, ça a été une porte d'entrée pour la sociolinguistique. Et puis, je me souviens que j'avais un amour fou pour l'analyse de conversation, déjà, alors que je ne connaissais pas du tout l'analyse de conversation, qui était devenue par la suite un peu mon cas théorique. Et puis, j'étais très fasciné aussi par la façon dont. Je me souviens à l'époque où j'étais adolescent que j'ai regardé des féministes italiennes prendre la parole, parler d'autodétermination des corps. Et cette volonté d'autodétermination des corps allait de pair avec une prise de parole publique. Donc, si tu veux, cette articulation entre la nécessité de la force de la parole en public avec des questions liées au corps et au genre ont été, je pense, centrales pour que je m'intéresse à ce domaine qu'est la sociolinguistique.
Alors, très bien, entrons dans l'arène. Donc, c'est un livre avec une force politique très importante. Alors, peut-être que ce qui est peut-être étonnant de prime abord quand on ouvre ton livre, c'est que tu ne commences peut-être pas par présenter une sorte de principe théorique ou politique qu'on pourrait déposer ensuite dans notre boîte à outils. C'est vraiment une sorte d'ouvrage avec une dimension pratique, c'est-à-dire qu'on est de plein pied dans une sorte, dans une transcription dont toi-même tu as, je veux dire que tu as toi-même fabriqué, une transcription qui permet à la fois de comprendre ce qui est de l'ordre enfin, de percevoir, hein, c'est parce que c'est des questions aussi de perception, de percevoir, de comprendre ce qui est dit, non dit, ce qui est de l'ordre du langage, mais aussi du corps, mais aussi peut-être de ce que tu nommes l'habitat naturel. Qu'est-ce que c'est cet habitat naturel?
C'est l'interaction. L'interaction est l'habitat naturel dès la subjectivité humaine, du vivre ensemble. C'est dans l'interaction que nous apprenons à parler et c'est dans l'interaction que nous apprenons à être des sujets identifiables et reconnaissables en tant que tels. Et c'est vrai qu'il y a ce focus, il y a un focus très fort qui vient un peu dès ma formation théorique sur des transcriptions, sur en fait le fait de noter avec beaucoup de minutie, je pense, verbal et non verbal, c'est que les participants dans une interaction disent et font. Et pour moi, c'est un acte, je dirais, presque politique de commencer par des transcriptions, de se focaliser sur des transcriptions, parce que ça peut donner, parce que ça donne la parole justement au sujet, ça donne la parole aux participants, au lieu de la trafiquer par des techniques, des discours rapportés du type les trans pensent ça, les trans disent que. Moi, je pose d'emblée ce que les sujets dans ces différents corpus qui ont nourri mon bouquin disent et font. Et c'est quelque chose qui répond aussi à des questions soulevées sur le plan théorique, au débat anthropologique sur comment justement donner la parole sans qu'elle soit trafiquée, mais aussi à la question féministe qui est celle de savoir qui peut parler et qui a l'autorité de parler, au nom de quoi et au nom de qui. Donc pour moi, c'est pas seulement un dispositif méthodologique, mais c'est aussi un dispositif politique. Et je dirais même théorique, parce que lorsque je transcris, lorsque j'essaye de noter avec le plus d'attention possible ce que des locutrices et des locuteurs font ou disent, je rentre, je fais une sorte d'ethnographie. C'est-à-dire que pour moi, faire une transcription, c'est vraiment de me plonger dans le monde des autres et de le restituer tel qu'il est. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment un acte auquel je tiens beaucoup et ça permet aussi de découvrir des choses. C'est-à-dire que lorsque je transcris, c'est dans la transcription que je découvre ce qui, du coup, peut être pertinent, important. Donc, c'est vraiment une découverte intellectuelle, mais c'est aussi une découverte sensorielle, parce que c'est une pratique qui se fait par le biais de la vision. On regarde des vidéos 1000 fois, par le biais de lui, on écoute des centaines de fois ce que les locutrices ou locuteurs disent. Et c'est par le corps, parce qu'on est constamment penché vers l'écran, vers la vidéo que nous avons filmée, et nous la restituons par l'écriture. Donc, c'est aussi un acte multisémiotique. Et ça participe, je dirais aussi, d'une écriture presque expérimentale. C'est-à-dire que ce n'est pas un bouquin dans lequel il y a un auteur qui parle, mais cette écriture, elle est aussi peuplée, par d'autres voix, par celles de ceux que j'ai rencontrés, que j'ai filmés, que j'ai enregistrés.
Allons-y, parce que quand même, on a quand même vendu, enfin moi, puisque je suis, on va dire, la danseuse, la danseuse privée de ce soir, qui anime le débat. Non, je plaisante, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a vendu dès le début l'idée que quand même, dès la lecture, hein, quelque chose se transformait dans notre observation, peut-être par exemple, d'échanges YouTube ou TikTok. Voilà. On va rentrer donc de plein pied dedans, et puisqu'on parlait de féministe, on parle donc d'un tweet. On commence par un tweet de Sandrine Rousseau. Il faut changer aussi de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tweet. Et donc ensuite, on a tout un échange, mais alors qu'il faut vraiment lire et observer de plus près quand on a le livre en main, mais je vais essayer de le traduire, mais là, hélas, qu'avec mon langage un peu physique, mais de manière simplement avec mes mots, je ne pourrais pas faire tous les hashtags, les points de suspension, les inclinaisons qui permettent de comprendre si la voix est montante ou s'il y a si la parole est coupée, mais voilà, ça donne une réponse de la fachosphère qui est celle donc de. Donc ça s'appelle le corpus steak, repas, France éternelle. Il s'agit de Baptiste Marchais et de Papacito. Voilà. Donc tu nommes PA pour Papacito et BM pour Baptiste Marchais. Voilà ce genre de truc. Voilà, un, dresse le couteau vers la viande. L'animal est encore vivant. Et moi j'ai, regarde, il se balade. Non, mais il a envie de se faire caresser. Regarde, il se balade. Mais non, trop tard, il va se faire bouffer. Ils rigolent ensemble. Il n'a qu'à courir plus vite, cet enculé. Il n'a aucun cardio. C'est un bœuf qui assumait peut-être du 36, du 37, qui assumait son petit surpoids, donc 38 certes, mais il mettait des pantalons, ça lui serrait pas, du 40. C'est pas un steak qui vote écolo, pointe sur la viande, c'est pas un steak qui vote France Insoumise. Alors comme ça paraît un peu bizarre, parce que je redis à voix haute quelque chose qui est merveilleusement transcrit par toi. Mais tu observes l'articulation, disons, entre l'éthos physique, le comportement physique de ces deux hommes, leur corporéité, la matérialité même de la viande. Ils traitent la viande comme un sujet que l'on incarne et à qui l'on prête une voix, mais aussi comme un objet que l'on mange et que l'on commente, un animal mort mais aussi vivant. Là, je te cite. Ça devient donc un sujet humanisé qui parle, mais qui est aussi parlé par les participants. La viande est présentée alors à la fois comme une altérité que l'on domine et que l'on tue. Ces deux hommes-là construisent et performent une masculinité dominante à l'intersection de l'humain et du non-humain, de l'animé et du non-animé. Et si je choisis cet exemple, c'est qu'il semble assez révélateur, dans la mesure où toi, tu as forgé ce concept un petit peu vraiment, de théorie de l'assemblage, hein, en t'inspirant de Guattari, de Latour et d'autres. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette théorie de l'assemblage?
Oui, en fait, cette théorie de l'assemblage que je développe dans le bouquin est issue d'un débat qui a enflammé les études de genre et queer autour de la matérialité du genre. C'est-à-dire que je me situe au sein d'un débat dans lequel on a d'un côté Butler, qui pose son attention sur le langage comme un dispositif de construction et de construction du genre. Et puis, tu as d'autres, comme Karen Barad ou Rosie Braidotti, qui disent il y en a assez du langage, il y a aussi de la matière, il y a aussi du corps, des organes, des objets qui construisent d'une façon égale le genre. Alors, moi, j'étais insatisfait par ce débat parce que je trouvais que les critiques posées à Butler étaient justifiées, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème avec la matérialité du corps. Elle parle beaucoup du corps, mais ce n'est pas un corps qui est agissant, c'est un corps parlé. Mais en même temps, j'ai trouvé aussi la critique à Butler insatisfaisante parce que cette critique pose d'emblée que le langage, ce n'est pas de la matière. Or, je considère que le langage, c'est justement de la matière. Donc, je me posais déjà dans une position médiane entre ces deux courants. Et puis, les corpus sont arrivés. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque je commençais à rédiger ce livre, j'avais l'ambition d'écrire un livre très théorique. J'avais commencé vraiment à l'écrire à partir de ces deux courants. Et après, il y avait en même temps des corpus qui étaient là, sur lesquels j'ai travaillé. Il y avait donc les échographies prénatales, il y avait les corpus travestissement, et puis il y a eu Papacito et d'autres, et les mouvements éco-transféministes. Et c'est en analysant
Ces
cette.
corpus, c'est des scènes, hein, ce qu'on pourrait appeler simplement comme ça des scènes qui sont issues donc de dialogues, mais aussi de tracts, de mouvements sociaux
D'observation,
féministes, de
voilà,
mouvements politiques, comme
exactement.
les suffragistes, suffragettes anglaises. C'est
Oui,
très, très divers, mais
c'est
voilà.
très divers,
Mais
oui. Mais l'analyse de ces différents corpora m'a permis en fait de me rendre compte qu'effectivement, ce qui construisait le genre, c'est un véritable assemblage entre plusieurs types de matérialités. Et le corpus auquel tu fais référence, Papacito, elle est assez exemplaire parce que en parlant de la viande, on célèbre aussi un certain type de masculinité dominante que l'on trouve dans la fachosphère à un niveau transnational. C'est-à-dire que l'éthos corporel de ces deux hommes, on le retrouve aussi ailleurs et il contribue à construire une vision de la masculinité qui est celle que l'on peut trouver plutôt à droite. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi les paroles échangées et il y avait ce focus sur la viande. Parce que cette interaction est filmée. Donc, je m'intéresse aussi à la façon dont la personne a filmé cet échange, décide de se concentrer à un moment donné sur la viande. Et donc, la viande, du coup, elle m'a paru vraiment comme un véritable sujet, non seulement parce qu'il y avait ce focus de la caméra, mais aussi parce que les deux participants animaient la viande en prenant sa voix. Et en même temps, la viande est aussi un objet qu'on tuait, qu'on mangeait un peu, et un objet que justement on comparait aussi aux militants écologistes et insoumis. Et c'était en même temps un contre-discours par rapport au discours, au tweet de Sandrine Rousseau. Donc, tu vois bien que là, j'étais face à un véritable agencement entre à la fois plusieurs types d'immatérialité, les corps musclés de ce mec, leurs paroles, le focus sur la viande, et donc il y avait aussi une multiplicité d'agentivité. Il n'y avait pas que des humains qui parlaient, mais il y avait aussi un morceau de viande qui, du coup, allait acquérir une véritable agentivité. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à penser le genre en tant qu'assemblage, non seulement entre plusieurs types de matérialité, mais aussi entre plusieurs types d'agentivité. Et c'est là que humain et non-humain est arrivé.
C'est ça. Donc, tu tentes de dépasser cette dichotomie ou ces scènes qu'on verrait tout simplement comme deux interlocuteurs ou des simples actes de langage. Tu dis donc il y a une agentivité qui est là. Et là, par exemple, la viande joue son rôle aussi à sa manière,
Oui,
quoi.
tout à fait. La viande, elle devient à la fois le symbole de leur virilité, mais devient aussi l'objet que l'on mange, comme on pourrait battre des militants qui ne partagent pas les mêmes idées telles qu'elles sont promues par ces deux participants.
On va prendre un deuxième exemple pour comprendre un peu cette notion d'interaction ou d'intraction.
Ah, oui.
Intraction, c'est bien ça.
Intra-action.
Intra-action. Et où là, on peut comprendre qu'il n'est pas seulement la question du développement entre plusieurs personnes, mais qu'il y a un enchevêtrement.
Oui.
Hein. Peut-être tout simplement sur les échographies prénatales. Ça m'a semblé très, très fort aussi, ce corpus, parce que là, peut-être que Lucas, tu peux nous expliquer, mais ce n'est pas seulement le médecin qui parle, hein. Il y a aussi une machine, il y a aussi une main qui zoome, un discours médical, une famille qui regarde. Donc là, on est vraiment dans cette interaction. Comment, à travers ton type de transcription, tu peux montrer que le genre est en train de se fabriquer, il n'est pas simplement révélé.
Oui, parce que effectivement, j'ai commencé ce travail sur les échographies prénatales en m'intéressant à l'annonce du sexe. Comment cette annonce était faite. Et bien évidemment, je me suis intéressé de prima facie à l'annonce verbale. Donc, c'est un garçon, c'est une fille. Et en fait, on se rend compte que c'est jamais si évident que ça. Et ensuite, en regardant de plus près, je me suis rendu compte que cette annonce était préparée par une véritable investigation dans le corps du fœtus. C'est-à-dire que l'échographiste, avant d'annoncer le sexe, elle plonge enfin, elle plonge son curseur en faisant un travail de zoom sur l'anatomie génitale du fœtus, et là, elle prépare cette annonce. Donc, en fait, il n'y avait pas que l'annonce du sexe, il fallait que ce sexe soit vu, compris comme quelque chose d'intelligible. Donc, là, il n'y avait pas que la parole, bien évidemment, mais il y avait aussi la vision, le regard des parents, le regard de la femme enceinte, le regard de la personne qui accompagne cette femme, et aussi le regard de l'échographiste. Mais il y avait aussi tout ce travail technologique autour du zoomage sur la génitalité du fœtus. Et donc, cette articulation-là, ça a été un argument de plus pour défendre cette idée d'assemblage. Et c'est là que vient aussi cette histoire de interaction. C'est-à-dire que l'interaction, c'est un concept qui a été forgé par Karen Barad, qui n'est pas tout à fait la même chose de interaction, parce que l'interaction, selon Barad, elle construit les sujets qui seraient censés être en amont de l'interaction. Donc, si vous voulez, dans une vision classique de l'interaction goffmanienne, vous avez au moins deux sujets qui parlent. Le fait qu'ils échangent, ça construit, ça fait une interaction. Alors que pour Karen Barad, il n'y a pas de sujet qui parle. Il y a une relation qui est en train de se faire et cette interaction produit les sujets. Donc, le fait de ne pas mettre en amont les sujets qui parlent lui permet de parler de interaction. Moi, je suis assez critique vis-à-vis de cette notion. Mais c'est vrai que, par exemple, dans l'analyse que je fais des échographies prénatales, on a vraiment cette impression que la corporalité, l'anatomie du fœtus, son existence, elle est produite par à la fois la maîtrise des outils technologiques qui font partie de toute une histoire de l'imagerie médicale à médecine, et aussi par les interactions entre les parents et le personnel médical.
Gréco-Luca, est-ce que tu nous situerais aujourd'hui dans une sorte de tournant corporel?
Oui, tout à fait, mais ce n'est pas que corporel, puisque il y a plus que le corps, il y a aussi des objets, il y a aussi de la technologie. Et puis, ce que j'ai vu aussi dans le corpus éco-transféministe, c'est qu'il y a dans les plus récents mouvements sociaux féministes, il y a l'émergence de ce que j'appelle un nouveau sujet féministe, qui est un sujet post-humain, qui est un sujet qui se construit aussi avec d'autres subjectivités qui ne sont pas humaines, comme les animaux. Et c'est à partir de là que, par exemple, lorsque j'ai participé à une manif en Italie féministe, que j'ai vu une banderole dans laquelle c'était marqué Siamo tutti animali, et animali à la fin, c'était pas la voyelle i, mais c'était la voyelle schwa, qui est en trois inversés, qui permet de court-circuiter en fait la binarité des genres. Là, j'ai compris qu'on était vraiment face à un nouveau sujet féministe, et qu'on était passé de l'interrogation butlérienne, nous les femmes, c'est qui ce nous, à ce nouvel énoncé, siamo tutti animali, pour me dire c'est qui vraiment ce nous qui préexiste à cet énoncé.
Avec peut-être cette inquiétude que tu notes, qui serait tout d'un coup peut-être aussi la disparition des sujets féministes, là.
C'est un nouveau sujet féministe. C'est pas une disparition comme on n'a pas non plus une totale disparition du genre, mais dès que l'on fait rentrer le non-humain dans l'analyse, je pense qu'il faut repenser à de nouvelles frais à la fois ce qu'on entend par sujet féministe, mais aussi ce qu'on entend par genre, parce que le genre, historiquement parlé, a toujours été pensé en relation avec l'humain à partir des travaux de Margaret Mead et de Simone de Beauvoir, c'était pensé comme une caractéristique humaine. Or, le genre, dans ses nouveaux travaux issus du courant néomatériel et aussi par l'observation que j'ai pu faire de la nouvelle tendance des mouvements sociaux éco-transféministes, je me rends compte qu'on a affaire avec un nouveau sujet. Certes, le mouvement féministe est très diversifié, et donc il y a des critiques acerbes contre ça. Il y a des féministes italiennes, différentialistes, qui disent que cet énoncé « nous sommes tous des animaux » fait disparaître justement la figure de la femme. Mais bon, c'est une autre façon de voir les choses. C'est pas une disparition, c'est une réconfiguration.
Et peut-être aussi qu'il y a une certaine signature matérialiste, puisqu'en rendant visible le non-dit, hein, on peut se retrouver aussi en face, tu donnes accès à une certaine épaisseur du social qui est souvent invisibilisée.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, à un moment donné, dans le bouquin, je parle donc beaucoup d'assemblages. Et j'ai dit que ce sont des assemblages dans lesquels il y a une multimatérialité. Pourquoi je parle de multimatérialité? Pour deux raisons. D'une part, parce que je désigne avec cette expression la multiplicité des ressources matérielles, mais je désigne aussi par multimatérialité le fait que les formes qui sont en train d'être construites ou déconstruites dans tous ces différents corpus, ce sont des formes, certes, en mouvement, qui se nourrissent aussi d'autres ressources matérielles, mais ce sont aussi des formes en tension, qui rentrent en tension avec d'autres contextes politiques. Par exemple, toute l'analyse comparée que je fais avec l'humanisation du fœtus dans les campagnes anti-avortement et le fait que le fœtus est un sujet pas du tout humain, non seulement d'un point de vue juridique, mais aussi parce que j'observe au niveau interactionnel, parce que c'est souvent perçu comme un sujet étrange, illisible, comme une surface opaque. Donc, effectivement, j'essaye de à la fois de rendre compte de cette diversité dans les ressources sémiotiques, mais aussi des rapports de force, des rapports de pouvoir. Et de ce fait, j'essaye aussi d'articuler des approches matérialistes classiques avec des approches plus phénoménologiques ou pragmatistes, latouriennes, par exemple, ce qui n'est pas du tout évident.
Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur les autres corpus et que que tu nous indiques un petit peu comment ton travail de transcription agit comme une sorte de révélateur du genre, toujours en excès?
Oui, alors il y a deux choses, la question donc de la transcription et la question de l'excès. Peut-être
Les
je commence.
métatranscriptions font apparaître des choses non évidentes de prime abord,
Tout à
qui,
fait,
voilà,
tout à fait.
qu'on n'imagine pas toujours genrées de prime abord non
Tout
plus.
à fait, tout à fait. Aussi bien, je pense, pour le lectorat que pour moi. C'est-à-dire que pendant que je transcris, je me rends compte des choses que je n'avais pas vues à l'instant où j'avais filmé cette scène, etc. Et donc, cette capacité qu'a la transcription à révéler des choses qui étaient de l'ordre du non-dit m'a fait penser aussi au genre en termes d'excès. C'est-à-dire que pour moi, le genre, c'est toujours quelque chose qui déborde de son caractère anthropocentrique et logocentrique pour rejoindre justement d'autres univers. Et pour moi, ça, ce n'est pas seulement une question analytique, ce n'est pas seulement le résultat de l'analyse où j'essaie justement de rendre compte de cet excès, de ce débordement, de cette pluralité, mais c'est aussi quelque chose d'historique, parce que finalement, d'un point de vue historique, le féminisme a été toujours un mouvement du débordement, de l'excès. Or, l'enjeu, c'est peut-être de... L'excès a été toujours pensé comme quelque chose de négatif par rapport au juste milieu, par rapport à la modération. Moi, je termine le bouquin avec cette idée de l'excès et j'aimerais bien qu'on lui donne cette fois-ci une acception positive, puisque penser le genre en termes d'excès génère aussi des pistes d'analyse incroyables, rend l'analyse plus riche et peut-être ouvre aussi des horizons politiques inattendus.
Est-ce qu'on peut revenir par exemple sur le corpus Rencontre travestie?
Oui?
Avec Laura, je ne pourrais jamais faire l'amour complètement nu sans les talons, la perruque, la robe, les bas et tout ce qui va avec. Ça fait partie de moi. Donc les objets là sont importants.
Les objets sont importants, c'est-à-dire que les objets, enfin, à un moment donné, cette idée d'excès, justement, elle m'est apparue aussi en travaillant sur les corps travestis, d'abord sur les corps drag dans ma précédente recherche sur Soldier King, et ensuite sur les corps travestis, parce que pour moi, le corps travesti, c'est un corps qui est en changement, c'est un corps annexé, c'est un corps qui rajoute quelque chose qui n'était pas là auparavant, mais qui finit par être intégré, mais ceci encore nomade, parce que ce que j'ai pu observer dans ces rencontres, c'est que le corps travesti, c'est un corps qui se plasme par l'ajout d'objets, de prothèses, d'artefacts, mais c'est un corps aussi qui voyage. C'est un corps qui voyage dans les réseaux sociaux, c'est un corps qui voyage par la technologie des portables, c'est un corps qui est pris en photo, c'est un corps qui est filmé et qui quitte en fait son propriétaire. Donc,
Pas
c'est...
facile à suivre, non, pour une sorte d'être sociologue, sociolinguiste, ethnographe en ligne, là. Comment c'était pas facile, j'imagine, de poursuivre ces sujets pluriels et
Mais parce que j'ai
qui apparaissaient,
rencontré,
disparaissaient.
mais parce que je les ai rencontrés, et donc j'ai pu les documenter. Et puis parce que mon travail précédent sur les drag kings m'avait déjà familiarisé avec ces pratiques-là, que j'ai pu analyser plus en profondeur par la suite. Et
Là,
c'est.
c'est jamais pour ce corpus-là, ce sont toujours des personnes rencontrées, jamais des personnes uniquement en ligne.
Les deux.
Les deux, d'accord.
Les deux, des personnes que j'ai rencontrées, des personnes que j'ai observées en ligne, et puis surtout quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a et qui m'a et qui a été pour moi une sorte de gatekeeper incroyable parce que elle a ouvert la voie à toutes ces pratiques nomades et excentriques, excentrées.
Et par exemple, dans tous ces ateliers qui avaient tracking, tu évoques aussi le fait qu'évidemment, il n'est pas question uniquement de performer la masculinité. C'est quelque chose que tu éprouves, y compris dans ton travail d'analyse et de transcription.
Oui, je l'ai prouvé dans mon, non seulement dans mon travail d'analyse et de transcription, mais aussi dans ma posture d'observation participante, puisque j'ai moi-même pratiqué le drag-kinging, et j'ai pu voir sur moi-même l'effet que ça faisait de rajouter des prothèses, des objets, des vêtements sur mon propre corps, et aussi sur ce que ça pouvait produire au niveau du public, une fois que je sortais en plein air avec les autres.
Tu parles de distance, en tout cas d'une masculinité revisitée. Hein, il ne s'agit pas de code aussi simple que le simple fait de rejouer la récurrence.
Non, oui, c'est révisité, et puis à un moment donné, je dirais que l'objectif, c'est de la rendre opaque. Mais ça, on peut le voir aussi dans le corpus travestissement, c'est-à-dire que il y a cette idée au début dans les pratiques de transformation corporelle, quelque chose de se rapprocher d'un autre modèle, mais dans le travail de rapprochement, il y a quelque chose qui échappe, il y a quelque chose qui squeeze, et finalement on le rend opaque. Et c'est ça qui, pour moi, en tout cas, m'intéressait, c'est-à-dire que dans la construction de la masculinité, parfois, il y a comme de la féminité, parfois, il y a quelque chose qui t'échappe et qui t'amène vers des horizons inconnus. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je parle d'une post-masculinité dans les pratiques des fabrications de drague, parce que ce que finalement est donné à voir n'est plus tellement ce qu'on avait projeté de faire. Donc, il y a quelque chose qui échappe complètement à l'intention. Et donc, si ça échappe à l'intention, ça échappe à la maîtrise. Et donc, là, encore une fois, cette idée d'excès devient pertinente pour analyser ce type de pratique.
Et en quoi, alors, ce qui est merveilleux dans cet ouvrage, c'est qu'on peut croiser évidemment Engels, mais aussi Butler et Monique Wittig, et sa compagne d'ailleurs.
Oui.
Et pourquoi Monique Wittig est-elle inspirante et en quoi l'est-elle?
Alors, Wittig, elle est arrivée tard dans l'ouvrage parce que au début, je m'étais concentré sur d'autres autrices. Et Wittig est arrivée parce que il y a eu un ouvrage qui m'a beaucoup inspiré. C'est un recueil de textes inédits qui s'appelle Dans l'arène ennemie, qui est un recueil très important, qui est une véritable mine, qui a été édité par Sara Garbagnol et Théo Mansion, et dans lequel j'ai trouvé des textes absolument fabuleux, parmi lesquels il y en a un qui pour moi était vraiment central. C'est un texte rédigé par sa compagne qui s'appelle Le théâtre lesbien. Et pour elle, Sande Zweig, pour elle, l'émancipation, elle passe par un travail sur la gestualité du corps. Donc, évidemment, dans un théâtre qui se veut non straight et queer, il faut retravailler tout un ensemble de codes gestuels qui nous ont été transmis et qui sont débiteurs, en fait, d'une gestualité hétérosexuelle masculine ou féminine, pour aller vers une gestualité autre.
C'est ça. Là, j'ai le texte, l'extrait. Les corps des femmes ont été tant trafiqués que les mouvements les plus simples, directs et fonctionnels, nous sont devenus complètement étrangers.
Tout à
Ainsi se
fait.
nouent les femmes, hein, on est ça.
Tout à fait.
Des exemples, jeter, pousser, soulever, courir, sans parler de frapper, porter ou marteler. Les gestes sont matériels, aussi matériels. Là, c'est important pour toi de retrouver, je pense, que des vêtements que l'on peut mettre ou retirer. Les gestes sont un moyen concret de produire du sens, aussi bien ceux qui nous ont été assignés et que ceux qui ne l'ont pas été.
Ouais.
C'est vrai qu'on parle moins de la campagne de Wittig, mais toi, tu l'as retrouvée
Oui,
complètement.
mais on en parle aussi dans un autre texte que peut-être les gens dans la salle le connaissent. C'est le brouillon pour un dictionnaire des amantes qui a été écrit justement avec sa compagne. Sa compagne, elle a été. À un moment donné, j'ai su que Wittig et sa compagne ont fait un séminaire sur la performance à New York University, mais il n'y a pas de traces. Il y a juste ce texte que moi je trouve formidable, dans lequel justement on met l'accent sur un travail sur la gestualité comme un préalable à l'émancipation artistique, mais aussi politique. Et ce qui est incroyable, c'est que elle cite aussi des auteurs qui me sont chers, comme Goffman et Berlioz, qui ne sont pas des auteurs très politique, même s'il y a une dimension politique dans leurs écrits, mais en tout cas, c'est pas ce qui apparaît tout de suite d'emblée. Et donc, pour moi, c'était un véritable texte révélateur. Donc, ça, c'est un point. Et c'est ce texte-là qui m'a permis, à la fin presque du livre, de parler de multimatérialité et non pas de multimodalité. Parce que la multimodalité, qui est l'imbrication entre plusieurs types de ressources gestuelles et verbales, ne prend pas du tout en compte la dimension politique, émancipatrice du corps. Alors que dans ce texte-là, oui. Donc je me suis dit, bon, il faut que je revoie ça. Donc ça, c'est un point. Et un deuxième point, c'est Wittig. Mais Wittig, pas la. Même si. J'étais en train de dire pas la théoricienne, mais la romancière. Même si pour moi, ces romans sont des sources incroyables de théories politiques et scientifiques. Parce que dans Virgile, non, qui est un texte très beau, qui est une sorte de revisitation lesbienne queer de la Divine Comédie de Dante, il y a ce personnage qui est incarné par Wittig, qui est un personnage mi-humain et mi-animal. Un personnage très étrange, en fait. C'est pour moi du post-humain avant la lettre. Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. Et puis aussi dans le Poponax. Parce que dans le Poponax, il y a à un moment donné, Catherine Legrand, elle dit que le Poponax, c'est quelque chose de très étrange, qu'on n'arrive pas à trop définir, qu'on n'arrive pas à cerner. Et pendant que je relisais le Poponax, j'étais en train d'analyser les fœtus dans les échographies prénatales. Et donc, je me suis dit, bon, ben, là, il y a quelque chose à voir. Et donc, Wittig, du coup, c'est devenu une source importante et j'ai décidé qu'elle devait absolument être là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est un peu un fantôme qui rôde, mais parce qu'elle est arrivée en retard, mais elle est vraiment cruciale, quoi.
Merci. Peut-être pour conclure, moi, ce qui m'a peut-être interpellée, c'est aussi cette façon de concevoir les interactions, l'interaction, bon, comme des phénomènes naturels.
Oui, mais ce n'est pas pour les naturaliser,
Non.
hein? Parce que effectivement, c'est une approche presque naturaliste, parce qu'on considère parce qu'on analyse les interactions comme un botaniste pourrait analyser les formes d'une plante, son histoire. Et moi et les gens avec qui je travaille, qui font partie de cette communauté-là, revendique cette approche naturaliste, mais qui n'est pas du tout naturalisant, parce que je pense que en prenant les sujets, les objets comme véritablement des empirés analysés, comme pourrait le faire un botaniste, on peut découvrir aussi les effets de pouvoir qui tendent à naturaliser justement ce qu'on est en train de prouver par ce type d'approche d'analyse.
La parole est à la salle, si vous souhaitez. Juste pendant que d'autres gens trouveront des questions plus sophistiquées, mais le corps du genre, le titre, le choix du titre, est-ce que tu peux revenir sur ce choix du titre?
C'était difficile de choisir ce titre, mais mon éditrice est là, on l'a choisi ensemble. Je dirais qu'il y a deux raisons. D'une part parce que c'était parce que d'une part parce que tout simplement parce qu'il y a un focus très important sur le corps, sur la corporalité, je dirais même la physicalité du genre, mais d'autre part aussi parce que le corps, ça me renvoyait à une vision presque spatiale du genre, c'est-à-dire que je voyais une surface qui était de plus en plus annexée. Et donc, du coup, le choix de ce titre-là, il s'est posé vraiment comme une évidence, pour justement, pour ces deux raisons-là. Mais c'est aussi une réponse à ce qu'a dit à un moment donné Butler dans son bouquin « C'est corps qui compte », c'est-à-dire qu'elle dit qu'à chaque fois que je décide de parler du corps, j'ai fini par parler du langage, qui est une aporie en soi. Et pour moi, ce titre-là, est-ce que je développe dans ce livre, c'est un peu une réponse à la question posée par Butler, que effectivement, on peut travailler, on peut parler du langage, on peut travailler sur le langage et parler du corps. Et aussi parce qu'il y a quand même un focus sur l'anatomie. Donc, ça me paraissait vraiment très important de ce titre-là.
Salut. Tu avais dit sur les corps travestiques, c'était un corps annexé, nomade. C'est que m'apparaît juste. Mais après, tu avais dit que c'était un corps qui voyage. Et ça m'a surpris un peu parce que quand on pense aux rencontres facilitées par Internet, surtout dans la langue anglaise, on parle de gens qui reçoivent et des gens qui se déplacent, qui voyagent. Do you travel or do you host?
Oui.
Et j'aurais tendance à penser les corps travestis d'ailleurs comme un corps qui ne voyage pas à cause de sa vulnérabilité dans des espaces publics, donc forcément dans un corps qui reçoit. Donc, est-ce que tu peux parler de ça? Et deuxième question, est-ce que tu peux parler de la différence, s'il y en a, entre ces corps-là et les corps trans?
Oui. Merci beaucoup, Diago, pour cette question. En fait, oui, c'est vrai que ce sont des corps qui reçoivent, mais quand je parle de corps voyageurs, un corps qui voyage, un corps nomade, c'est parce que ces corps-là, une fois qu'ils sont pris en photo et qu'ils sont filmés, ils voyagent dans l'espace numérique et peut-être ailleurs. Donc, il y a ce point-là, mais c'est vrai que ce n'est pas un corps qui se déplace beaucoup parce que sa corporalité, elle devient vulnérable dans l'espace public. Même si j'observais des scènes dans lesquelles, effectivement, dans les interactions, le corps travesti, lorsqu'il décide de se déplacer, il ne se déplace pas en travesti, il se déplace en mec et se travestit à nouveau dans l'espace de celui ou de celle qui le reçoit. Donc, il y a vraiment cette question de l'espace est vraiment très importante. Et la deuxième question, pardon, si tu peux répéter. Ah oui, avec le corps trans. Oui, c'est encore une fois une question d'espace. C'est-à-dire que pour moi, mais on l'avait pensé ensemble lors de cette conférence qu'on avait faite à Toulouse, le corps travesti, c'est une forme de transitude, mais qui est circonscrite au niveau spatio-temporel. C'est-à-dire que c'est une forme de transition, de transitude, mais qui est limitée dans un espace-temps précis, qui ne voyage pas dans d'autres espaces-temps physiques. Donc pour moi, la différence, elle se situe à ce niveau-là. On pourrait aussi faire la différence avec le fait que, mais en fait, ça ne tient pas la route, que ce n'est pas un corps qui n'a pas accès à des pratiques hormonales, etc. Mais ce n'est pas vrai parce que j'ai rencontré aussi des travestis qui vont avoir accès, qui prennent des hormones, mais qui le font aussi d'une façon qui est temporellement très circonscrite, juste pour avoir des petits seins de temps en temps. Et donc, et je trouve ça très intéressant, cette circonscription spatio-temporelle.
Merci. Est-ce qu'il y a aussi une pluralité des formes travesties, contrairement peut-être à certaines formes trans?
Oui, tout à fait. Il n'y a pas que un corps travesti, il y en a plusieurs qui sont plus ou moins maîtrisés, qui sont plus ou moins aussi, qui rentrent aussi plus ou moins en contact avec des formes drag. C'est-à-dire que parfois, une fois, j'avais rencontré une drag queen qui m'avait. Bon, elle disait au début, moi je ne suis pas un travesti, je suis une drag queen. Bon, après, en plus en français, le mot travesti, c'est un mot qui a une connotation péjorative et négative. Mais elle me disait, après une performance, en rentrant chez moi, je vais sur mon appli, je me fais des plans. Et je me fais des plans en travesti. Donc, les frontières, elles sont très poreuses. C'est-à-dire, où est-ce que se situe, par exemple, vraiment la frontière entre une drag queen qui sort de son espace artistico-théâtral, performatif, et qui, en rentrant chez elle, va sur une appli et rencontre quelqu'un, et là, du coup, elle se présente comme une travestie, elle ne se présente pas comme une drag queen. Donc, il y a aussi cette différence-là. Il y a aussi une différence au niveau, je dirais, de la sexualité de genre, parce que ce n'est pas forcément des gens, ce n'est pas forcément des hommes cis qui vont avoir des relations ou des rencontres avec d'autres hommes cis. Et pas, il y a des travestis qui cherchent que des travestis ou qui cherchent que des femmes. Donc il y a aussi cette diversité-là. Et cette diversité-là a un impact sur les pratiques des travestissements, parce qu'il y en a qui, par exemple, partagent la pratique du travestissement avec leur épouse et donc utilisent les objets et les vêtements de leur épouse pour se travestir. Donc, il y a cette circulation des objets. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué parce que c'est quelque chose aussi que j'avais trouvé dans les ateliers drag king. Je me souviens que une des premières choses qui m'avait frappé, c'est que quand j'arrivais là-bas, je trouvais au milieu de la table de maquillage des perruques, des objets, des préservatifs remplis de coton que tout le monde pouvait utiliser pour se transformer. Donc il y avait une collectivité des artefacts. Je trouvais ça très belle, cette idée de partage, comme si il y avait du commun. Il y a aussi une idée de commun qu'à mon avis, il faudrait développer dans les pratiques de transformation. Des objets qui voyagent et qui sont partagés. Et donc forcément, on est encore annexé nomade, parce que
Salut Lucas.
salut.
Je voulais savoir, en fait, parce que ça, on a commencé la séance en parlant de la viande. À un moment donné, donc il y a eu cette référence à Siamo tutti animali.
Oui.
Et je me demandais, dans ton économie générale, que viennent faire les corps animaux?
Ouais.
J'imagine que ce ne sont pas simplement des sortes de, je sais pas comment dire, de patères sur lesquelles viendraient s'accrocher des bouts de langage humain.
Ouais.
Donc voilà, est-ce que ça a une place dans ce que tu penses?
Qu'est-ce que vient faire, pardon, la place des corps, tu as dit? Animaux?
Animaux, oui.
OK.
Est-ce qu'en fait les corps animaux ont une place dans ton économie théorique?
Ouais. Oui. Merci parce que ça me permet de revenir sur la question de cette diversité très forte, très grande dans les corpus. En fait, ça a été un défi que j'ai voulu prendre parce que avant, j'ai travaillé seulement sur un seul corpus. Donc, j'ai toujours fait des monographies, que ce soit dans des essais, des articles ou mon bouquin sur le King. C'était une monographie sur un corpus. Mais là, pendant que j'écrivais, pendant que je lisais, il y avait des corpus qui étaient là, sur lesquels je travaillais d'une façon dépendante, et qui du coup m'ont semblé pertinents pour argumenter mon hypothèse de départ, c'est-à-dire défendre une position médiane holistique à mi-chemin entre Karen Barad et Judith Butler. Et donc, ces différents corpus m'ont donné la possibilité, que ce soit dans les mouvements éco-transféministes, où il y a effectivement la question des animaux, ou dans la fachosphère avec la question de la viande, ou dans les échographies prénatales avec la question des fœtus, qui sont quand même des sujets très étranges, qui sont aux frontières de l'humain et du non-humain. Tous ces corpus-là ont nourri cette idée à la fois de multimatérialité, mais aussi de multi-agentivité, de multisubjectivité. Donc ça, c'est un point. L'autre point, c'est que la juxtaposition entre ces différents corpus m'a permis de les éclairer. C'est-à-dire qu'un corpus pris d'une façon isolée me disait certaines choses, mais le mettre à côté d'autres, du coup, je découvrais des choses assez nouvelles et inattendues. C'est-à-dire que c'est le fait de mettre ensemble différents types de corpus, par exemple, de comparer les échographies prénatales avec les campagnes anti-avortement, la façon dont le fœtus est humanisé ou pas, avec les gender reveal parties, que je découvrais des choses qu'un seul corpus ne pouvait pas me permettre. Donc, j'aimais beaucoup cette idée qu'un corpus pouvait éclairer l'autre dans différents espaces de mon ouvrage. Et donc, j'ai voulu en fait pousser jusqu'au bout l'idée et de travailler sur cette grande diversité des corpus pour finalement donner des arguments à mon hypothèse, parce que je me suis dit, si cette hypothèse marche dans une diversité très grande de corpus, ça veut dire qu'elle peut être une bonne hypothèse, donc mes analyses peuvent avoir une force heuristique majeure.
Bonjour Lucas. Donc moi j'ai lu le livre et j'ai trouvé que c'était très efficace justement ce dispositif de comparer avec des outils, enfin avec les mêmes outils, des corpus très différents, et que justement je rebondis sur la formule de Nejma Bouakra, ça ouvre des horizons politiques inattendus, c'était ça la formule. Et effectivement je trouvais que c'est assez troublant de voir comment on pouvait faire des parallèles sur le mécanisme qui consiste à prêter un discours à un fleuve ou à une forêt ou au steak ou au fœtus. Il y avait vraiment des parallèles comme ça, et que politiquement ça mettait du coup en miroir des choses qui n'ont pas l'habitude d'être en miroir. Par exemple, le fait de le corpus steak avec cette glorification du couteau et d'assumer l'acte de tuer l'animal et tout en personnifiant la viande, etc. Et donc ces projections, et c'était en parallèle avec le corpus du médecin anti-avortement qui explique pas à pas comment on tue en fait le fœtus tout en l'humanisant, enfant, etc. En passant par une opération que tu décris très bien de masquage total de la mère en fait, parce que c'est un enfant qui est comme dans une chambre en fait, comme dans quelque chose de non humain. Et donc en montrant tout ça, en les mettant en parallèle, on se dit, et tu le dis, mais sans aller totalement au bout des conséquences politiques, que c'est quand même compliqué de poser des frontières, même politiquement on comprend, mais de poser des frontières trop rigides entre l'humain et le non-humain, alors qu'on ne le fait pas partout et que c'est incohérent, et que quelque part, accepter ce statut hybride queer du fœtus, ça devrait être politiquement intégré. Ouais. Dans les mouvements pro-choix et les deux en fait. Et je trouvais que c'était assez troublant, et je voulais savoir si tu pouvais, oui, revenir sur les impacts, l'impact politique de ton livre que tu finis sur le vœu que le genre reste ingouvernable, non commodifiable, voilà.
Oui, alors il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que effectivement, il y a cette idée que les analyses rendent compte, me semble-t-il, de la naissance de nouveaux sujets qui profitent aussi de l'animalité, euh, des objets, etc. Mais aussi le fait que cette multiplicité à la fois des ressources et des sujets me permet de penser le genre en excès. Et peut-être en le pensant en excès, c'est aussi une antidote très puissant contre les tentatives de commodification et de intégration du genre et du féminisme par le système et par le système néolibéral. Et là, pendant que j'écrivais ça, j'avais en tête le discours de Pasolini, le dernier discours de Pasolini qui fait au congrès du Parti radical italien, qui était un parti qui a défendu en Italie dans les années 70 le droit à l'avortement, le droit au divorce et les droits des personnes LGBTQIA+. Et Pasolini, dans ce dernier discours, parce qu'après il sera tué, dira: vous devez continuer à blasphémer. Et je me suis dit que dans le blasphème, il y a peut-être une vérité à trouver. C'est là que se situe la vérité. C'est pas dans un discours convenu. C'est peut-être dans ce blasphème-là. Et en tout cas, si les radicaux en Italie ont blasphémé, ont obtenu aussi des résultats politiques très importants, comme l'avortement, le divorce, l'objection des consciences, etc. Donc, dans une période de politique comme la nôtre, où justement l'extrême droite est au pouvoir dans de nombreux trop pays, peut-être qu'il faut reprendre ce mot de Pasolini, de continuer à blasphémer et d'assumer en plein l'excès du genre et du féminisme pour en faire quelque chose justement d'ingouvernable. Ça ne veut pas dire que moi, je pense qu'il y a plein de féministes qui pourraient très bien gouverner notre pays. Donc, mais je pense aussi que c'est important que cet objet-là, qui nous est cher, qui ne soit pas trop pris dans les mailles du pouvoir, qui tend justement à le invisibiliser, la grande force antagoniste, la dimension révolutionnaire de Wittig, par exemple.
Bon. Merci d'être venu. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose?
Non,
Non.
merci.
Et puis je crois que le livre, donc Le corps du genre, se trouve juste derrière la vitrine, là-bas, juste au comptoir. Voilà.
Merci beaucoup.